Bonsoir. Bruno Leroux démissionne, c'est Mathias Fekl qui le remplace au ministère de l'Intérieur. Bruno Leroux fragilisé par les révélations sur ses deux filles employées comme collaboratrices parlementaires. Elles étaient mineures quand elles ont commencé à travailler pour leur père. Dans ce journal, le décryptage de Frédéric Mettezo et le commentaire de notre invité Nicolas Thibault, président de l'Association française des collaborateurs parlementaires. L'affaire Fillon, elle, connaît de nouveaux développements ce soir. Le candidat de la droite est désormais soupçonné d'escroquerie aggravée par la justice. Par ailleurs, le Canard enchaîné accuse François Fillon d'avoir perçu 50 000 euros pour avoir mis en relation un industriel libanais avec Poutine et le patron de Total. Les explications de Julien Pasqualini dans cette édition. Il n'aura pas attendu 24 heures pour quitter le gouvernement après les révélations du magazine quotidien de TMC. Le ministre de l'Intérieur Bruno Leroux a donc démissionné ce soir. Il l'a fait quelques heures après l'ouverture d'une enquête préliminaire par le parquet national financier. Hier, le magazine de Yann Barthès avait révélé que Bruno Leroux avait employé ses deux filles comme collaboratrices parlementaires à l'Assemblée. 24 CDD au total pour un montant global de 55 000 euros. Mais surtout, les deux filles de Bruno Leroux ont commencé à travailler pour leur père alors qu'elle n'avait que 15 et 16 ans. Le désormais ex-ministre de l'Intérieur a pris la parole ce soir depuis son fief électoral à Bobigny en Seine-Saint-Denis.
Même si cela ne concerne en aucun cas la mission que j'ai aujourd'hui, celle de ministre de l'Intérieur, je ne veux à aucun prix que ce débat fait d'amalgame puisse porter atteinte au travail du gouvernement. Ici, en Seine-Saint-Denis, chez moi, aujourd'hui comme hier et comme ces 20 dernières années, j'ai mis un point d'honneur à respecter la fonction de député et les devoirs qu'elle entraîne. J'affirme mon honnêteté dans les rapports humains comme dans tous mes actes politiques. Mais ma responsabilité est aussi de préserver totalement l'action gouvernementale. C'est pourquoi j'ai adressé au président de la République ma démission.
Voilà, exit donc Bruno Leroux, une démission qui ternit bien sûr la fin du quinquennat de François Hollande, car bien évidemment cette affaire en rappelle une autre, l'affaire Fillon, où là aussi il est question de collaboratrice parlementaire, en l'occurrence Pénélope Fillon. Alors Bruno Leroux affirme qu'il n'a rien fait d'illégal en embauchant ses filles, mais dans le contexte actuel, on voyait mal comment il pouvait rester au gouvernement, Frédéric Mettezo.
Oui, on se souvient du marasme de l'affaire Cahuzac, de ses longues semaines de déni avant la sidération de ses aveux et de sa démission. Pas question de revivre ce cauchemar. François Hollande avait tranché vite et dans le vif. Ensuite, dans l'affaire Thévenoud, idem aujourd'hui avec Bruno Leroux. Impossible d'avoir un ministre de l'Intérieur visé par une enquête préliminaire, même si la présomption d'innocence doit s'appliquer. A fortiori, quand ce ministre doit organiser les élections et faire face à une menace terroriste toujours très élevée. Voilà des semaines que François Hollande exprime son inquiétude sur la situation actuelle, la campagne polluée par les affaires, la montée du Front National. Attention à ce que cette folie ne nous emporte pas tous à la fin, a confié François Hollande à son entourage. Le chef de l'État ne pouvait donc pas laisser une nouvelle polémique enfler et polluer le mois et demi de mandat qui lui reste.
Justement, Frédéric, Bruno Leroux a déjà un successeur au ministère de l'Intérieur, il s'agit de Mathias Fekl.
Oui, il était jusqu'ici secrétaire d'État chargé du commerce extérieur. Il avait succédé à ce poste à Thomas Thévenoud. Mathias Fekl est en quelque sorte l'autre couteau suisse de François Hollande avec Bernard Cazeneuve. Il a 39 ans, il est franco-allemand, polyglotte, normalien, énarque, agrégé et élu local depuis 9 ans déjà dans le Lot-et-Garonne, conseiller municipal, puis député, puis conseiller régional. Mathias Fekl s'est engagé aux côtés de Bertrand Delanoë au PS, puis Dominique Strauss-Kahn et Pierre Moscovici. Il vient donc du courant plutôt social-démocrate, mais il s'est toujours opposé à Emmanuel Macron, son ancien collègue au gouvernement. Le désormais ministre de l'Intérieur, qui fut magistrat pendant 5 ans, soutient aujourd'hui, sans état d'âme, Benoît Hamon.
Frédéric Mettezo, merci. Invité de ce journal, Nicolas Thibault, président de l'Association française des collaborateurs parlementaires. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Nicolas Thibault, on peut effectivement être collaboratrice parlementaire à 15-16 ans, comme l'ont été les filles de Bruno Leroux?
Bah écoutez, je pense que si Monsieur Leroux a embauché ses filles comme collaboratrices, c'est que c'était tout à fait possible, car les contrats ont dû être enregistrés en bonne et due forme au service des affaires financières de l'Assemblée, donc je pense qu'il y avait une possibilité de le faire.
Donc possible, donc légal.
Oui, mais je pense que si mes souvenirs en droit social sont encore bonnes et fraîches, c'est qu'on peut embaucher un mineur sur ses périodes de vacances scolaires, mais pour des tâches légères. Or, j'ai le regret de dire que le travail de collaborateur parlementaire n'est pas constitué de tâches légères. C'est pas un job d'été, si je peux me permettre.
Et donc, lorsque l'on est mineur, c'est difficile d'exercer cette profession?
Ben, c'est difficile. On peut faire des stages, notamment pour observer comment fonctionne la vie parlementaire. On reçoit tous des stagiaires dans nos équipes. Mais bon, de là à renouveler l'opération pour les mêmes personnes un certain nombre de fois, c'est vrai que ça peut poser question.
Justement, 24 CDD au total pour un montant global de 55 000 euros. Alors, si je fais bien le calcul, c'est environ 2 200 euros par contrat. Est-ce que ces montants vous choque pour des jeunes filles?
Ben, il me choque dans la mesure où le salaire moyen pour un collaborateur parlementaire qui débute, donc en CDI et qui a une licence en droit par exemple pour commencer, c'est autour de 1500 euros voire 2000 euros. Et puis on peut obtenir 3000 euros par mois après 10 ans d'ancienneté. Donc vous voyez que si on fait la comparaison, alors je sais bien que comparaison n'est pas raison, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes.
Nicolas Thibault, comment définit-on un collaborateur parlementaire? Est-ce que déjà cette définition existe dans les textes officiels?
Écoutez, il y a une formule très célèbre qui dit que quand c'est flou, c'est qu'il y a un louet. La définition du collaborateur parlementaire, elle est très très variée, mais elle est aussi un peu compliquée à appréhender. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de définition précise. Si vous prenez le document de l'Assemblée nationale qui est consultable par chacun d'entre nous, on lit, et je l'ai apporté, le collaborateur joue le rôle que chaque député lui fixe à l'intérieur de l'équipe qu'il a recrutée. Bon, alors théoriquement...
C'est très vaste comme
très vaste.
Définition.
Théoriquement, vous faites du travail parlementaire. Vous assistez un parlementaire. Donc vous lui faites... on va dire beaucoup d'interventions, vous décortiquez des textes législatifs, mais comme il n'y a pas de fiche de poste, et c'est ce que nous réclamons depuis un certain temps, vous pouvez avoir beaucoup d'activités enrichissantes et des activités plutôt subalternes. Bien. Et à partir de là, il serait bon que on se penche vraiment et rapidement sur une définition avec des fiches de poste qui correspondraient à diverses activités et en parallèle, naturellement, la mise en place de grilles salariales avec des plafonds et des planchers, ce qui éviterait comme ça un certain nombre d'abus.
Pourquoi ce flou dans la définition du poste de collaborateur parlementaire ?
Ben, c'est parce que au départ, le collaborateur parlementaire a été créé en 1975 pour assister les élus au Palais Bourbon et au Sénat et pour être dans l'ombre. Donc évidemment, vous aviez une activité qui était assez cachée, pas dans le sens opaque, mais au moins qui était dans l'ombre. Donc les définitions étaient tout à fait discrétionnaires et incombées aux parlementaires, aux députés employeurs. Bon. Aujourd'hui, on voit bien que c'est un métier qui s'est professionnalisé et donc il faut impérativement éclaircir tout ça, mettre une définition tout à fait complète et puis voir un petit peu ce qui se passe dans les parlements étrangers. Et nous d'ailleurs, nous regrettons beaucoup que le président de l'Assemblée nationale qui a mis en place un groupe de travail pour réfléchir sur l'embauche des collaborateurs sur l'IRFM, n'ait pas répondu à notre courrier où nous lui demandions, en tant que représentant des collaborateurs, de participer au moins à ce groupe de travail.
Et c'est pour ça qu'il est difficile de prouver la réalité du travail effectué, puisque cette difficulté est au cœur de l'affaire Pénélope Fillon.
Bon, il est toujours facile de trouver quand même un début de preuve quand vous êtes collaborateur parlementaire du travail que vous avez pu effectuer. Alors évidemment, c'est plus compliqué quand ce sont des législatures précédentes où le matériel informatique a été mis au placard. On a tous les cinq ans, changé de matériel. Donc les disques durs, c'est un peu compliqué à les retrouver. Mais néanmoins, en ce qui me concerne, si on me demandait demain de prouver mon travail parlementaire, je pense que en une matinée, je suis capable d'apporter un certain nombre de preuves et non pas de présomptions.
Et si Pénélope Fillon a travaillé effectivement pour son mari, bien évidemment, les preuves forcément existent quelque part.
Ben, je pense qu'il serait préférable qu'elles existent pour les personnes intéressées.
Nicolas Thibault, cette affaire Bruno Le Roux est-elle comparable en tout point à l'affaire Fillon, justement, selon vous ?
Je ne sais pas si on peut dire ça parce que c'est un peu compliqué. En plus, bon, la justice est en train de faire des investigations, donc c'est un peu compliqué de commenter parce qu'on n'est pas dans le bureau du juge, ni vous ni moi. Mais en tous les cas, la seule chose qu'il convient de dire, c'est que ce genre de situation accrédite la thèse qu'il faut impérativement et nécessairement définir le rôle, les tâches, que doivent faire les collaborateurs parlementaires et en même temps définir des grilles salariales un peu comme ça se fait d'ailleurs au Parlement européen. Vous avez des grilles salariales et en même temps, vous savez que quand vous êtes collaborateur parlementaire au Parlement européen, vous devez présenter vos diplômes à une commission qui valide d'une certaine manière votre entrée en fonction. Donc vous voyez, il y a un certain nombre de mises en place. Vous pourriez aussi proposer, on pourrait dire, que le déontologue de l'Assemblée nationale est un travail d'investigation plus large parce qu'aujourd'hui, il ne s'occupe pas des collaborateurs. Et ça serait légitime qu'il le fasse à l'avenir.
Merci Nicolas Thibault, président de l'Association française des collaborateurs parlementaires. Merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. À droite, François Fillon n'aura pas eu le temps de savourer le répit procuré par cette affaire Bruno Le Roux. Le candidat de la droite doit faire face à de nouvelles révélations ce soir. Le Canard Enchaîné affirme dans son édition à paraître demain que François Fillon a été payé 50 000 dollars pour mettre en relation un homme d'affaires libanais avec Vladimir Poutine et le patron de Total. L'entourage du candidat dément un quelconque conflit d'intérêts. Julien Pasqualini.
D'après le Canard Enchaîné, François Fillon aurait signé en 2015 un contrat avec un milliardaire libanais, Fouad Marzoumi, spécialisé dans la construction de pipelines, contrat signé dans le cadre de sa société de conseil 2F Conseil. L'ancien Premier ministre aurait été payé 50 000 dollars pour user de ses relations et présenter l'homme d'affaires à Vladimir Poutine, le président russe, et au patron de Total, société qui pourrait être intéressée par des pipelines. Le PDG de Total, c'est Patrick Pouyanné, et ce n'est autre que l'ancien directeur de cabinet de François Fillon lorsqu'il était ministre des Postes et Télécoms au milieu des années 90. Cette rencontre entre les quatre hommes a bien eu lieu, d'après le Canard, le 19 juin 2015 à Saint-Pétersbourg. François Fillon a toujours démenti avoir conclu un contrat avec Total ou avec des Russes. Alors sur le papier, c'est vrai, puisque le contrat aurait été signé avec un Libanais, mais il implique le président russe et le patron de Total.
Julien Pasqualini, merci. Autre mauvaise nouvelle pour François Fillon, le parquet national financier a décidé d'élargir son enquête sur de possibles emplois fictifs à des soupçons d'escroc. Escroquerie aggravée, faux et usage de faux. D'après le journal Le Monde, le PNF se demande si les époux Fillon ont pu produire des faux pour justifier les salaires versés à Pénélope. L'épouse du candidat est convoquée par la justice le 28 mars prochain en vue d'une possible mise en examen. En meeting ce soir à Courbevoie, François Fillon n'a pas dit un mot des affaires judiciaires le concernant. Les hommages se succèdent à gauche après la mort d'Henri Emmanuelli, ancien ministre et ancien président de l'Assemblée. Henri Emmanuelli a été emporté par la maladie ce matin à l'âge de 71 ans. Le candidat socialiste Benoît Hamon s'est dit bouleversé par la disparition d'une âme sœur. François Hollande a salué une belle figure morale, un homme droit, un socialiste de cœur, de raison et d'action. L'actualité à l'étranger, en Syrie, les rebelles islamistes tentent depuis hier de lancer une vaste offensive sur Damas. La capitale syrienne a été relativement épargnée par la guerre depuis le début du conflit en 2011. Mais cette fois, les factions rebelles essayent de pénétrer au cœur du pouvoir de Bachar al-Assad depuis le quartier de Kaboun, Valérie Crovard.
Oui, cela peut paraître surprenant, mais des groupes rebelles sont toujours présents dans plusieurs quartiers situés au nord-est de la capitale syrienne. Il est donc relativement facile pour ces forces armées de lancer des attaques surprises, notamment depuis Jobar, qui est la ligne de front la plus proche du centre de Damas, puisque située juste derrière la place des Abbassides, sur laquelle s'est d'ailleurs abattue une pluie de roquettes ce matin. L'armée syrienne a répondu à l'assaut en bombardant massivement les positions tenues par les rebelles pour les empêcher d'avancer. Plusieurs groupes islamistes participent à cette offensive qui a démarré dimanche et qui a, semble-t-il, demandé plusieurs semaines de préparation. Il y a l'armée syrienne libre, les salafistes d'Arar al-Sham, le Fatah al-Sham, l'ex-front al-Nosra ou encore la Légion al-Rahman, la faction armée la plus importante du quartier de Jobar. Il est difficile d'imaginer aujourd'hui que Damas puisse tomber totalement entre leurs mains. La capitale syrienne est l'un des principaux bastions du régime et donc défendu en tant que tel. Mais les rebelles montrent d'une part qu'en se rapprochant du cœur de Damas, ils peuvent encore faire pression militairement sur les forces loyalistes, alors que la reprise d'Alep par le régime semblait les avoir condamnés à une mort lente et que s'ouvrent par ailleurs dans deux jours de nouvelles négociations de paix à Genève.
Valérie Krova, merci. Petit espoir d'apaisement entre la Turquie et l'Allemagne. L'AKP, le parti du président Erdogan, a finalement annulé tous les meetings électoraux prévus en Allemagne d'ici le 16 avril, date du référendum qui doit renforcer les pouvoirs présidentiels d'Erdogan. Le maître d'Ankara avait accusé la chancelière Angela Merkel de recourir à des pratiques nazies après l'annulation de plusieurs meetings de l'AKP par les autorités allemandes. La météo demain instable avec orages et grésils sur l'ouest du pays. Ce mauvais temps se décalera en journée vers le sud-ouest et l'est. À l'avant de cette perturbation, il fera beau, les températures maximales plutôt fraîches de 9 à 15 degrés du nord au sud, jusqu'à 20 degrés sur les régions méditerranéennes. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Nathalie Lopez.